Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
Teaching and in the house.
Radio News and the
lo que se reproduce y esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
Et vous aussi, vous vous souvenez parfaitement qu'en vous réveillant un 9 novembre au matin l'année dernière, en écoutant France Inter, vous avez levé un sourcil interrogateur. Donald Trump est donc président des États-Unis. Aujourd'hui, ça fait un an et rien ne dit qu'il ne serait pas réélu d'ailleurs si une élection avait lieu demain. Un an très chaotique objectivement, un an de tweets parfois rageurs, un an de traités d'effets d'alliance rendus plus compliqués, un an de division aussi dans une Amérique touchée parfois dans ses grands fondamentaux comme après Charlottesville et d'autres. Nous en parlons pendant deux heures ensemble avec des invités, avec des plongées dans cette Amérique de Trump, avec vos questions aussi. Ce sera en deuxième heure dans le téléphone sonne et avec, on est ravis de l'accueillir, l'écrivain Colson Whitehead, auteur de Underground Railroad, que je vous conseille tout de suite. Et on est parti. L'Amérique est vaste, on n'a que deux heures.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Bonsoir à vous, Colson Whitehead.
Hey, thanks for having me.
Eh ben, de rien, on est ravis de vous avoir. Votre livre s'appelle donc Underground Railroad. Il a déjà été maintes fois récompensé aux États-Unis, notamment par le prestigieux Pulitzer. Et si le succès est tel, j'allais dire, c'est que l'histoire est formidable et on va y venir. Mais peut-être aussi parce que l'écho dans l'Amérique dans laquelle vous vivez aujourd'hui en est démultiplié. On va prendre le temps pour y arriver, Colson Whitehead. Je voudrais qu'on se plonge dans l'histoire d'abord que vous voulez nous raconter. C'est celle de Cora qui fuit la plantation où elle est née, une plantation qui est en Géorgie. On est avant la guerre de sécession et à chaque étape dans sa fuite, cette Cora va tomber finalement sur autant de possibilités de liberté, autant de possibilités d'Amérique qui s'avèrent parfois cauchemardesque ou qui s'avère être une illusion, en tout cas une forme différente de racisme institutionnalisé. Le fil rouge de la fuite, c'est ce train souterrain qui aidait les esclaves à monter vers le nord. Dans la réalité, il n'a jamais été un réel train, c'était un réseau de passeurs. Vous vouliez en faire un train? Est-ce que c'est votre passion pour le fantastique d'abord ou est-ce que c'est juste une déception d'enfant quand vous avez compris que ce train n'existait pas? Vous vous êtes dit, puisque je suis romancier, je vais le faire exister vraiment?
It really was exploring this childhood notion.
Vous savez, c'était une exploration de cette notion enfantine. Et pendant des années, ces deux mots, le train souterrain, on pense, on croit que c'est un véritable train. Ça n'avait rien à voir avec l'esclavage, l'histoire. J'essayais de savoir quelle histoire je pouvais créer à partir de cette prémisse enfantine.
Alors justement, elle explore l'Amérique, votre Cora. Le premier stop quand elle s'enfuit de Géorgie, il est pour la Caroline du Sud. Ça a l'air formidable. Les Blancs et les Noirs vivent ensemble. Elle n'a jamais vu ça, mais il y a une arrière-pensée dans ce qu'elle trouve, et ce sera le cas à chaque fois, en fait.
Vous
savez, pour transformer cette métaphore du train en quelque chose d'autre, il fallait que je fasse, que je crée des alternatives, des Amériques alternatives. Donc, elle va dans un état de suprématie blanche, un état où il y a une utopie noire, un autre état où il y a cette période d'harmonie entre blancs et noirs, et ça me permet de déconstruire l'histoire américaine, la réarranger, et arriver dans une histoire qui s'éloigne des faits.
Il y a comme une espèce d'hystérie raciste à chaque porte, quand même, dans votre livre, non? C'est un peu comme ça que moi je l'ai perçu.
Oui, dans la partie de la Caroline du Nord, très certainement. Vous avez vu qu'il y a quelques passages qui sonnent comme dans l'Allemagne nazie, dans ce chapitre, des lois raciales très répressives. Vous savez, aux États-Unis, elles n'ont pas été poussées à l'extrême comme l'ont fait les nazis. Il y a eu des théories sur l'hygiène raciale, la suprématie raciale aussi. Il y a des mouvements aux États-Unis qui croient encore en ces trucs-là.
Mais alors justement, pour éclairer les gens qui nous écoutent, en Caroline du Nord, pendant le stop, il n'y a pas d'esclavage et au fond, il n'y a pas de racisme puisque les Noirs sont interdits. Il y a cette phrase d'ailleurs de l'un de vos protagonistes qui dit « En pratique, ils avaient aboli l'esclavage, mais c'est tout le contraire. Nous avons aboli les nègres. » Et d'une certaine façon, et sans vouloir exagérer, mais cette peur d'une Amérique de moins en moins caucasienne, donc qui se replie sur son Amérique blanche, c'est celle d'aujourd'hui, c'est celle de maintenant, c'est celle que vous vivez, non?
Well, certainly when I was
Vous savez, quand j'étais dans le livre, je me posais la question, est-ce que je vais pas trop loin avec les lynchages? Je revenais toujours à ma recherche et je m'assurais que je n'exagérais pas. Ou je regardais les vidéos des meetings de Trump et j'écoutais ce qu'il disait sur les Mexicains contre les musulmans et je me suis rendu compte que le genre de haine que je décrivais de par le passé était toujours vivante, elle était toujours là. Un peu caché, mais ça attendait simplement un Trump pour ressurgir.
Il y a une espèce de perpétuation des différents types de racisme, en fait, qui demeurent, voire qui se transmettent. Vous avez parlé à l'instant de Donald Trump. Est-ce que vous avez même, vous-même, finalement, été étonné d'être aussi proche de la réalité?
Oui, il y a
quelques rapprochements avec ces patrouilles anti-esclaves qui pouvaient arrêter n'importe qui. C'est quelque chose qui se rapproche à ce qu'on fait aujourd'hui avec certaines personnes, avec certains groupes mobiles qui arrêtent les gens, qui les fouillent, qui les interrogent. Et puis, après avoir écrit un livre sur la suprématie blanche et sa centralité dans l'histoire américaine, ça me faisait bizarre quand même qu'on élise un président tel que celui-là.
Ben alors justement, à chaque fois, l'Amérique espère trouver mieux, un peu comme Cora, qui n'arrête pas de monter dans le Nord, en fait, mais qui finalement ne trouve pas mieux. Au fond, on a l'impression qu'elle va la chercher, cette Amérique post-raciale, votre personnage. Est-ce que vous aussi, vous y avez cru à un moment, et notamment après l'élection d'Obama? Est-ce que vous avez pensé que c'était possible?
Vous savez, le mot post-racial après que Obama ait été élu. Mais bon, tout le monde a pensé après que c'était un concept stupide et que ça ne représentait rien. Et tout aussi ridicule qu'il le fut, la plupart des gens auraient aimé revenir à cette époque où on faisait des blagues sur le post-racialisme. Mais maintenant, tout ça, c'est un rêve qui s'avère être complètement faux.
Un rêve ou une illusion, vous le dites d'ailleurs à la fin de votre livre, et c'est même assez terrible, en voici une d'illusion, nous ne pouvons pas échapper à l'esclavage, c'est impossible, et l'Amérique également est une illusion, et c'est la plus grande de toutes.
Vous savez, dans ce livre, la Déclaration de l'Indépendance est citée à plusieurs reprises. Cora, sur sa plantation en Géorgie, dans son école, dans différents endroits. Et elle essaye sans cesse de comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Tous les hommes sont créés égaux? Ces droits sont inaliénables. Peut-être que les Américains ne sont pas égaux, que les femmes ne sont pas égaux, les gens de couleur ne sont pas égaux. Ça veut dire quoi? Et donc, depuis notre période de formation, nous avions des idéaux démocratiques, mais c'est une chose de les dire, et c'est autre chose que de les vivre. Et nous luttons encore, et nous luttons toujours pour pouvoir atteindre ces rêves et ces espoirs de la Déclaration d'indépendance.
Colson Whitehead, l'un de vos confrères, même génération, et qui est l'un des écrivains qu'on entend et qu'on voit beaucoup, qui s'appelle Ta-Nehisi Coates, écrit dans un essai que Trump a été élu parce qu'il était blanc, et qu'en cela, c'est le premier président blanc, alors que Trump, lui, n'avait pas été élu, alors qu'Obama n'avait pas été élu parce qu'il était noir. Est-ce que vous diriez cette même phrase?
Il y a beaucoup de choses horribles qui sont produites pour élire un président comme Donald Trump. Beaucoup de racistes aux États-Unis. Et il a offert un racisme à la carte. On peut aimer les Noirs et haïr les Mexicains. Ben voilà Trump. Vous pouvez haïr tel groupe et aimer tel autre, et ben voilà, Trump à la carte. Et si vous n'étiez pas raciste, si vous avez pour Trump, ça veut dire que bon, ça ne vous dérange pas d'avoir un raciste à la Maison-Blanche.
Ça veut dire que le subtexte de Trump pour vous, c'est « Make America white again », rendez l'Amérique à nouveau blanche.
Ouais, c'était refaire l'Amérique comme elle était dans les années 50. Il n'y avait ni femmes, ni noirs qui avaient le pouvoir. Un homme pouvait être un homme blanc sans être menacé.
Et en même temps, toute cette période qu'on est en train de traverser réaffirme aussi une affirmation noire, justement. Est-ce que vous le sentez vous aussi? Est-ce que vous avez le sentiment d'y participer? Est-ce que vous vous sentez même la responsabilité, vous, qui êtes un auteur très lu, d'y participer?
Responsibility in what sense?
Oh, une responsabilité parce que vous êtes lu, parce que vous écrivez, parce que vous avez un mot à dire et un message peut-être à faire passer.
Well, I mean, you know, Obama won with like 51% of the
votes. Obama avait 51% des votes. Ça veut dire que 49% n'avaient pas voté pour lui. Et ces gens ont voté cette fois-ci pour Trump. L'Amérique a été raciste depuis le tout début. Elle est raciste, elle était raciste quand j'étais enfant. Elle continuera de l'être très longtemps. Les forces de la haine sont vraiment très intégrées chez beaucoup de gens.
Vous êtes un vrai fataliste. En gros, ça ne s'arrêtera jamais. C'est ce que vous dites, mais c'est aussi d'une certaine façon ce que dit votre personnage qui n'en finit pas de grimper dans le Nord.
J'ai des enfants, donc j'espère qu'ils grandiront dans un monde meilleur que celui dans lequel moi j'ai grandi, tout comme mes parents ont espéré que je grandirais dans un monde meilleur que ceux qu'ils ont connus. Et finalement, c'est vrai, il y a des avancées, mais nous sommes une espèce qui est assez stupide, et même en allant de l'avant, parfois on fait un pas en avant, un pas en arrière. Et c'est malheureux. Et c'est la façon dont fonctionne la civilisation.
Mais vos parents, c'est votre génération, c'est la génération des droits civiques. Vos parents se sont battus pour ça. Vous êtes la génération de quoi, finalement, les jeunes auteurs noirs aujourd'hui?
Well, I mean, you know, I think because of what they fought for, what
en raison de ce pourquoi ils se sont battus, il y a maintenant des auteurs noirs et qui se battent. Moi, je peux écrire. Moi, j'ai grandi à leur ombre. Je peux raconter un livre sur l'esclavage. Vous savez, regardez, moi, j'écris à l'ombre de Baldwin et puis d'autres. Mais peut-être qu'il y a un grand écrivain noir. À l'époque, il y en avait un à la fois. Et maintenant, on peut parler de la négritude de tas de sujets différents.
Une toute dernière chose, Colson Whitehead, puisqu'on va poursuivre l'émission et qu'on posera la question à chacun. Si vous retenez un moment Trump de cette année écoulée, un seul, un moment, peut-être une phrase, vous retenez lequel? I'm sorry.
Each day there's some new travesty.
Non, chaque jour il y a un nouveau truc. On se réveille, on regarde Twitter, et il y a une chose horrible qui vient de se produire. Donc, ça serait vraiment une injure à sa collection immense de tragiques que d'en prendre qu'un seul.
Allez, ben on va pouvoir en parler, en prendre plusieurs, même tout au cours de cette émission. Colson Whitehead, merci beaucoup. Ça s'appelle Underground Railroad et c'est publié chez Albin Michel. On vous le conseille évidemment très fortement.
France Inter, Fabienne Synthès, Un jour dans le monde.
Et vous allez rester avec nous, Colson Whitehead, si vous le souhaitez. On explore ensemble cette Amérique de Donald Trump. On écoutera la voix des républicains aussi, celle des Américains qui vivent au quotidien. Les moments clés de ces un an, les moments qui laissent encore rêveurs. Allez, le temps d'un bon vieux Elvis, A Little Less Conversation.
In me.
Ça fait du bien d'écouter Elvis, tiens, et c'est pas si souvent sur France Inter, A Little Less Conversation.
France Inter, le 18-20.
The 45th President of the United States of America, Donald J. Trump.
I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans.
Et c'est fou parce que quand on réentend, je vous regarde tous là, on va se présenter au fur et à mesure, mais quand je vous regarde tous autour de cette table, on entend ces mots et on en voit certains qui font ah, comme ça, je l'ai vu Adam Nociter, votre petit soupir, j'ai vu aussi le sourire de Vanessa Bierschaeffer, mais forcément il y a toujours une réaction. Et pour pouvoir vous présenter les uns les autres, j'aimerais qu'on fasse comme ce qu'on a fait à l'instant avec Colson Whitehead, que vous me donniez chacun une image de ces un an de présidence, une chose très rapide à retenir et qui nous permettra donc de faire le premier tour de table. Vanessa Bierschaeffer, vous êtes membre des Républicains Overseas, donc ici en France. Allez-y, donnez-nous une image, quelque chose que vous retenez.
Tout simplement l'inauguration de Trump après son élection.
Donc ça là, l'investiture.
Oui, l'investiture pour moi a été un moment assez important et collectif.
Et ça a été un grand discours, cette investiture.
Oui, puis je pense aussi que c'est la première fois qu'on reliait autant d'informations et d'images sur un président des États-Unis au moment de l'investiture.
Ah bon ?
Oui, ça a été mon sentiment. Je me trompe peut-être, mais
Adam Nociter, vous aussi, vous êtes correspondant du New York Times ici à Paris. Si vous gardez une image, une chose, un mot, un tweet, comme vous voulez.
Écoutez, comme disait tout à l'heure Monsieur Whitehead, il y a tellement de moments comme ça que il est extrêmement difficile d'en choisir. Je crois que peut-être le moment le plus grave et le plus révélateur, c'était quand Monsieur Trump a fait l'équivalence entre les suprémacistes blanches et les manifestants à Charlottesville. Alors là, a été révélé à tout le monde, en quelque sorte, le vrai visage de cet homme.
Ben justement, tiens, ouais. On l'a, cet extrait, on va l'entendre. Hein, ça se passe effectivement juste après les événements de Charlottesville. On se souvient d'ailleurs de cette conférence de presse parce que ça commence très différemment. Et puis on a le sentiment qu'il y a un moment où Donald Trump sort de son texte, en quelque sorte. Écoutez.
I think there's blame on both sides, and I have no doubt about it, and you don't have any doubt about it either. You had a lot of people in that group that were there to innocently protest, and very legally protest, because, you know, I don't know if you know, they had a permit. The other group didn't have a permit. So I only tell you this, there are two sides to a story.
Voilà, il y a deux côtés dans chaque histoire, et en ramenant les deux dos à dos, j'imagine, Colson Whitehead, que c'est, on en parlait à l'instant, c'est un moment qui vous parle, d'autant qu'on touche là peut-être à l'unité du pays, à ses racines, et peut-être que c'est un tournant quand même de cette année.
Well, you know, I mean, you know, there are a few things I remember about that day.
Il y a plusieurs choses dont je me souviens sur cette journée. C'était très surprenant de voir des gens qui manifestaient avec des drapeaux nazis et des drapeaux du Sud. Et quelques jours après, même les républicains disaient « ça allait un peu trop loin, ça avait dépassé la ligne rouge, c'était vraiment raciste, et si les républicains le disent alors ?»
Et on en reparlera dans un instant avec Vanessa Bierschaeffer notamment. Je voudrais qu'on salue George Harrington qui est à Washington pour nous. Bonsoir George.
Oui, bonsoir.
Vous êtes très bien, merci beaucoup. Vous êtes chef d'entreprise à Washington, aux côtés de Grégory Phillips, qui vous prête une partie de son bureau. Vous aussi, le chef d'entreprise, s'il y a une image que vous retenez, une chose, un moment, vous diriez quoi ?
Et est-ce que vous me donneriez deux ?
Allez-y, ouais.
En fait,
vous êtes cher,
le premier... tout à fait. Le premier, c'est sa réaction entre les ouragans à Puerto Rico et à Texas. Parce que pour les Texans, on va être là à toujours. Et pour les Puerto Ricains, débrouillez-vous. Donc c'était un peu étonnant pour moi.
Ça, c'est le premier moment
d'un président.
C'est le moment en deux moments à la fois, en fait. Grégory Philips, qui est à côté de vous. Grégory, je peux pas vous laisser sans intervenir. Et bonsoir à vous. Vous ne servez pas que à tenir le micro de Georges. Un moment pour vous.
Écoutez, en septembre aux Nations Unies, on est à New York, on se demande si à la tribune planétaire des Nations Unies, Trump va faire du Trump, et puis oui, il fait du Trump, il parle de la Corée du Nord, Rocketman, on va détruire la Corée du Nord, et Trump fait du Trump devant la planète entière.
Alors, je voudrais qu'on regarde un peu justement à quoi il ressemble ce bilan, les promesses qui ont été celles de Donald Trump, et ce qui se passe aujourd'hui. Adam Nociter, est-ce qu'il a un bilan au bout d'un an, selon vous, Donald Trump?
C'est surtout un bilan négatif. Il a réussi l'accomplissement inouï, je dirais, de mettre les Américains dans un état, je dirais même quasi guerre civile. Les communautés, les uns contre les autres. Et il semble se plaire à s'exercer à ce jeu-là, à raviver les haines, les tensions intercommunautaires. C'est son fonds de commerce quotidien. Et c'est sur cela qu'il surfe, et c'est comme cela qu'il garde le soutien fidèle de ceux qui le soutiennent encore.
Parce qu'il
un nombre décroissant, il faut le noter.
Un nombre décroissant, mais il existe toujours une base. Vanessa, vous allez pouvoir évidemment répondre. Il existe toujours une base. Si demain il y avait des élections, Adam Nociter, honnêtement, il pourrait être réélu Trump ou pas?
Absolument pas. Il est à un taux de popularité le plus bas qu'on a jamais vu dans l'histoire des États-Unis à ce stade d'une présidence. 38%. C'est extrêmement grave pour lui. Et d'ailleurs, hier soir, les résultats en Virginie, quand un démocrate a été élu gouverneur, montrent qu'il y a une basculement significative dans l'opinion. Non, c'est impossible. Impossible.
Vanessa Bierschaeffer, juste un mot d'abord sur ce que disait Adam Nociter du New York Times. On l'entendait dans l'extrait sonore, un Donald Trump dire « Je serai le président de tous les Américains ». Est-ce que, objectivement, ça, pour le coup, c'est pas raté?
Moi, je pense que si on se souvient des propos qu'il a tenus, il a dit « Il y a deux histoires, il y a deux côtés à un événement ». Et en définitive, je trouve qu'il il accuse l'extrémisme des deux camps.
Bon. Là, vous parlez de Charlotte spécifiquement.
Oui, je pense que ensuite, c'est un personnage effectivement qui est exubérant, qui est excessif par certains côtés.
Est-ce que même vous, la Républicaine, des fois, il vous agace, vous dites non, là, trop loin?
Oui et non, parce qu'en fait, si on voit son parcours antérieur, on voit bien que ça a été un moyen de communication pour lui. C'est la façon dont il a fait sa carrière, et je ne pense pas qu'il soit le personnage qu'il veut jouer.
Donc et il joue.
Oui, parfois il joue un personnage, mais je pense pas que ce soit le politicien exubérant et fou qu'on veut bien le faire. On veut faire croire qu'il est.
Alors il y a une chose.
Par contre, j'aimerais parler du bilan juste.
Pardon.
Juste,
allez-y. Juste Vanessa Bierschaeffer, rapidement.
C'est qu'on parle beaucoup de racisme et de toutes ces questions qui sont très importantes, mais il faut parler aussi de l'économie.
Ah bah j'allais y venir. J'allais exactement là. Donc vous m'enlevez les mots de la bouche. Je disais ce qu'il sauve pour l'instant, effectivement, peut-être, c'est l'état de l'économie. Je voudrais qu'on écoute très rapidement une femme qui s'appelle Monica Gates, et c'est important de la situer parce qu'elle est maire d'une commune qui s'appelle Kingsman. C'est dans l'Arizona. C'est la commune qui a le plus voté pour Trump aux dernières élections. Écoutez-la.
Je suis très heureuse de voir que l'économie s'est améliorée à ce point. Je dirais que, grâce à lui, il y a eu un vrai sursaut. Donc, j'espère que les gens vont reconnaître que les progrès actuels sont bénéfiques pour tout le monde. Il y a plus d'emplois en ce moment que de personnes cherchant du travail. Et ça, c'est très important pour notre communauté et pour notre pays. Il a changé la perception, il a redonné l'espoir à de nombreuses personnes. On sait que l'économie est cyclique, toutes les améliorations ne viennent pas de lui. Mais le pays est plein d'espoir, avec des gens disposés à faire des investissements. Les ventes de logements sont en hausse et les gens réinvestissent dans leur pays.
Voilà, cette comment s'appelle-t-elle, Monica Gates, pardon, qui est maire d'une commune qui s'appelle Kingsman, et c'est dans l'Arizona, puisque vous l'avez évoqué, Vanessa Bierschaeffer. C'est à lui ce bilan, à Donald Trump.
Ah, je pense qu'il y fait beaucoup. On regarde la réforme des, fiscale actuelle qu'il met en, qui est pas en place. Oui, mais par exemple au niveau immobilier, c'est intéressant pour toutes les maisons de plus de 500 000 euros, on ne pourra plus déduire le crédit. Il fait des choses à la fois pour la classe moyenne et pour le business. Et quand on est dans les difficultés qu'on a connues en gros depuis 2008, on a besoin de quelqu'un qui connaisse un petit peu les affaires et le monde de la finance aussi.
Madame Nociter, c'est à vous aussi que je pose la question. Oui, ce bilan qui dit 4,1% de chômage, qui dit 1,65 million d'emplois créés sur ces 10 mois, c'est à lui ou pas?
Ça n'a absolument rien à voir à ce que M. Trump aurait pu faire. La croissance, le recommencement de la croissance a commencé sous Obama. Ensuite, ainsi que la baisse du taux de chômage. Donc, Monsieur Trump a fait strictement rien, sauf momentanément peut-être redonner de la confiance à quelques chefs d'entreprise qui le lâchent progressivement. Quant à l'embellie de la bourse, historiquement, ce qui se passe à Wall Street est complètement décuplé, non seulement de la politique, mais aussi de la moralité. Donc, Monsieur Trump, dans aucun cas, peut prendre crédit. Et d'ailleurs, sa loi sur la finance risque très fortement de ne pas être votée au Congrès. Donc, tout son programme risque encore une fois d'être un échec.
Je voudrais poser la question à George Harrington qui nous écoute depuis Washington. George, vous qui êtes chef d'entreprise, est-ce que vous avez le sentiment de travailler dans un environnement meilleur, dans un environnement favorable? Comment vous le voyez, vous, ce Donald Trump, votre chef d'entreprise en chef, là, pour le coup?
Ce sont deux choses différentes. En fait, l'économie tourne bien ici à Washington. Dans ma ville, Alexandria, on a un taux de chômage de moins de 3%. Donc, les choses tournent bien. Mon problème, c'est de trouver des employés qualifiés qui ont assez d'éducation. Ça, c'est mon problème. Au niveau de l'économie, les banquiers nous relancent tous les jours pour prestations d'argent, si on veut prêter l'argent. Donc, apparemment, ça tourne bien.
Ça tourne bien. Est-ce que ça tourne mieux que ça n'a tourné? Est-ce que ça tourne de la même manière que ça a toujours tourné pour vous? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous sentez une meilleure confiance, en fait, dans l'économie depuis que ce président est là?
Dans ma domaine, pas tellement. Dans d'autres domaines, j'imagine, immobilier, achat et réparation de voitures, oui, ça tourne très bien. J'ai un ami qui m'a dit, il est un voteur de Trump, il disait hier soir, il a voté sa poche parce que il pensait que sous Trump, il va faire mieux. Donc pour moi, pas tellement, pas encore.
Adam Nociter, on a beaucoup parlé des sorties de certains traités, notamment du traité transpacifique. On est en train de rediscuter. On va peut-être rediscuter l'ALENA. En tout cas, tout ça est en cours. Est-ce que, selon vous, cela peut nuire à l'économie américaine dans l'année, les deux ans qui viennent, ou pas? Est-ce que cette pente-là, elle est dangereuse?
Absolument, c'est extrêmement dangereux. Et on voit que les chefs d'entreprise, ainsi que le secteur agriculturel se plaint déjà des velléités de Monsieur Trump pour sortir du NAFTA qui est d'une grande bénéfice pour les États-Unis. Monsieur Trump agit du principe du nationalisme effréné et donc tout ce qui pourrait mettre les États-Unis en relation quelconque avec les autres pays est, à son avis, mauvais. Mais il procède, comme d'habitude, d'une base d'une ignorance totale des faits et de la situation. Par exemple, quand il était au Japon l'autre jour. Il s'est plaint auprès des Japonais du fait que les Américains achetaient tellement de voitures japonaises sans se rappeler que trois quarts des voitures japonaises achetées par les Américains sont fabriquées aux États-Unis et des communautés entières aux États-Unis vont effondrer si on met une quelconque restriction là-dessus. Donc, il faut toujours figurer que M. Trump procède d'une base d'une ignorance quasi inimaginable du monde extérieur.
Vanessa Bierschaeffer, où on en est de ces promesses qui disaient les emplois seront relocalisés aux États-Unis, on ne partira plus, où on en est de cela? Est-ce qu'il y a eu un changement réel, une vraie réforme dans ce sens-là?
Écoutez, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'en définitive, de deux côtés de l'Atlantique, on a le même problème. Les emplois sont partis, on ne produit plus. Et donc,
mais du coup, la question c'était, y a-t-il des réformes aujourd'hui aux États-Unis qui peuvent permettre de régler ça
Oui, mais en même temps, c'est très délicat parce qu'il peut avoir des effets qui ne sont pas encore calculés, anticipés. Dans le détail, j'aurai des difficultés à vous dire ce qu'il prévoit. Par contre, le fait qu'il veuille revoir certains traités me paraît à la fois bénéfique pour les États-Unis et aussi, de manière paradoxale, pour la France et l'Europe. Je crois que c'est allé beaucoup trop rapidement. La classe moyenne a pratiquement disparu.
Pour l'instant, les traités qui remet en cause, c'est le Transpacifique et c'est l'ALENA, donc pour l'instant, ça ne concerne pas l'Europe.
Y a quand même certains éléments de discussion entre l'Europe et les États-Unis. Je pense que des deux côtés, on est allé trop vite pour des intérêts financiers et économiques et nous avons besoin, effectivement, de faire revenir les emplois, que ce soit aux États-Unis ou en France. C'est le même problème des deux côtés de l'Atlantique.
Je voudrais qu'on revienne à une autre promesse qui a été faite par Donald Trump et qui faisait partie des choses qui ont été mises réellement en avant et qui ont fait beaucoup de bruit. C'est ce fameux mur entre le Mexique et les États-Unis, donc construit sur cette frontière qui devait être payée par le Mexique et qui vraisemblablement ne le sera pas. Mais les prototypes, en tout cas, ils sont là. Le reportage est signé de Grégory Phillips. On l'écoute et on revient tout de suite.
Le Mexique est juste derrière ce corridor en barbelé qu'on peut traverser à pied. Ce poste frontière d'Otay Mesa au sud de San Diego, Antonio, un cuisinier de 27 ans d'origine mexicaine, le connaît bien. Il le traverse plusieurs fois par semaine.
Ma femme, elle vit côté mexicain. Et moi, je vis ici, aux États-Unis. On a un enfant, donc si je peux, j'essaie de traverser tous les jours. Mais c'est dur, c'est fatigant. Avec ce projet de mur, ce qu'ils essaient de dire, c'est qu'on n'est pas des bonnes personnes. Qu'est-ce que je pense de Trump? Il a beaucoup d'idées folles. Pourquoi un mur? Alors que vous avez déjà une frontière, des gardes-frontières. Je pense que c'est trop.
Et j'ai dit, on va construire ce mur. Tout le monde me dit, c'est fou. Mais on va construire le mur. On va construire un mur. On va construire un mur, ok? Et qui va payer pour ça? Le Mexique, ils vont payer.
Ce projet de mur, on peut l'apercevoir quelques kilomètres plus loin et entendre à distance le bruit des travaux qui ont commencé. Ici, on bâtit 8 prototypes d'un mur qui fera entre 6 et 9 mètres de haut. Mais pour Pedro Rios, qui à la frontière dirige une association de défense des migrants, ce chantier n'est qu'un théâtre politique pour montrer à l'opinion que Trump va tenir sa promesse.
On a déjà deux murs ou deux barrières, voire trois par endroit, donc c'est vraiment une idée ridicule. Et surtout, c'est une dépense d'argent inutile, ça n'empêchera pas les gens de passer. Ceux qui sont vraiment désespérés, qui veulent venir travailler ici, trouveront un moyen d'entrer aux États-Unis. Et ce n'est pas un mur qui va les arrêter.
Plus au nord, Esther Valdez nous reçoit dans son bureau de San Diego. Avocate d'origine mexicaine, elle parle au nom du Parti républicain, dont elle est une membre active ici en Californie.
Ce mur n'est pas fait pour exclure les gens selon leur race, c'est pour protéger les Américains. À la frontière, on a de la contrebande, du trafic d'êtres humains, garçons et filles. On a des femmes qui sont revendues pour la prostitution. On a découvert 13 tunnels qui débouchaient sur le sol américain. Il y a aussi un énorme problème de trafic de drogue. Ce mur, c'est vraiment pour stopper le crime.
Même si Trump a juré que c'est le Mexique qui paierait pour ce mur, les opposants au projet de ce côté-ci de la frontière pensent qu'il ne se fera pas. Trop compliqué, trop coûteux, entre 35 et 40 milliards de dollars. Et il n'est pas certain que le Congrès américain permette à Trump de dépenser autant d'argent pour réaliser sa promesse de campagne.
Et merci Grégory Phillips. Colson Whitehead, j'aimerais bien votre réaction à cette histoire de mur. D'abord, est-ce que vous pensez, vous croyez qu'il existera réellement un jour ? Alors il existe par morceaux, hein, il faut le dire. Les constructions de murs, ça a commencé dès 94. Là, on est dans une autre ambition. Est-ce que ça existera un jour?
Ça
attirait les gens, donc c'était un de ses trucs pour l'élection, et donc il faut maintenir en vie cette illusion. Les gens savent que ça va pas se produire. Mais c'est une sorte de cliché, vous savez. Les gens, ils vont continuer à écouter Trump raconter cette même histoire.
Est-ce qu'il y a une chance, enfin, problème de vocabulaire, mais est-ce que réellement vous avez le sentiment que ce mur sera payé surtout par le Congrès? Pardon, Vanessa Bierschaeffer, je cherchais votre nom sur ma feuille.
Ouh là, ça devient très technique pour moi. Je pourrais pas répondre.
Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que les Républicains sont prêts à suivre Trump et payer ce mur? C'est aussi simple que ça. Est-ce que vraiment là-dessus,
moi, je pense que c'est un élément qui permettait à Trump de dire au Mexique on va négocier, parce qu'on a quand même des gens qui rentrent aux États-Unis extrêmement violents, des trafics en tout genre, et c'est un moyen, comme il l'a fait aussi dans le passé dans ses propres affaires, de dire voilà, je vous propose une position qui est jusqu'au boutiste pour négocier.
Donc il y aura pas de mur en fait.
Après, il y a aussi des problèmes techniques qu'il faut régler. Il ne suffit pas de dire qu'on va construire un mur pour qu'il soit réalisé sur toute la frontière. Nous avons des frontières naturelles en France, évidemment.
Indemnocitaire, c'est juste de la politique, en fait, c'est juste des mots, cette histoire. Oui, et ça dit des choses, hein, ça dit des choses de ce personnage, bien sûr.
Certainement, ça dit long sur le personnage. C'était une phrase dans sa campagne qui a servi à rameuter la meute, pour ainsi dire. Et ça a beaucoup marché. Mais comme beaucoup de ce que ce monsieur dit, c'était absolument vide de contenu. Aucune chance que cela serait voté par le Congrès, et tout le monde le sait. Donc, c'était une sorte d'insulte subreptice aux Mexicains. C'était une manière de leur dire vous êtes bien moins que nous, et on va vous exclure. C'était une sorte d'insulte raciale, bien sûr. C'est son fonds de commerce.
George Harrington, j'aimerais bien votre avis là-dessus, vous qui êtes chef d'entreprise et qui êtes à Washington. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez parfois du mal à trouver des emplois qualifiés. Est-ce que les difficultés en ce moment aux États-Unis, liées à l'immigration, liées à ce que Donald Trump promet autour de l'immigration, liées à un certain nombre d'interdictions d'entrée, est-ce que tout ça joue à votre sens dans l'économie et dans votre économie, dans votre entreprise ou pas?
Dans la mienne, non, parce que on peut pas embaucher les gens sans papier. On est contrôlé, on a beaucoup de documents à remplir avant qu'on puisse embaucher quelqu'un, même un Américain qui est né sur les États-Unis. Donc non, tellement pas. Dans le pays, un peu, je pense, oui. Surtout l'agriculture et tout ça. Et je ne sais pas pourquoi on parle pas d'une hausse d'immigration légale pour avoir plus d'ouvriers qui voulaient travailler. Parce que quand on tombe, quand je vois ça tous les jours, les gens qui entrent dans ma boîte cherchant du travail, ils sont pas qualifiés. Donc, ça, c'est la difficulté.
Et plein d'autres sujets, évidemment, à évoquer, sur lesquels on reviendra avec un autre plateau tout à l'heure dans le téléphone sonne. Adam Nociter, j'aimerais avoir, pour terminer, votre opinion, vous, sur votre travail. Au New York Times, est-ce qu'on a changé sa focale, en fait? On disait au début qu'il y avait finalement moins de gens à la Maison-Blanche parce qu'on manquait de sources, mais beaucoup plus de gens extérieurs. Est-ce que cette manière de couvrir Trump a complètement changé votre manière d'appréhender la Maison-Blanche dans un journal comme le vôtre?
Oui, je crois quand même. Pour nous, évidemment, ça serait le grand histoire qu'on couvre. On a doublé nos ressources de personnel.
Et vos abonnements d'ailleurs aussi. Hein. Enfin, pas doublé, mais en tout cas, vous les avez bien augmentés.
Plus que doublé. Ouais. On a connu une embellie spectaculaire depuis l'avènement de Trump. Du jamais vu dans notre histoire. Ça marche bien pour nous à cause de Trump. Donc, et on peut le remercier.
Donc grâce à Trump, on continue le 18-20 spécial Trump, bien sûr, on y reviendra. Il y aura plein de questions, ce sont les vôtres au téléphone sonne dans un instant. En attendant, je voudrais saluer Sylvie Kaufmann. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir.
Et on boucle la boucle, Sylvie Kaufmann du journal Le Monde, bien sûr, on boucle la boucle avec vous, Sylvie. On a toujours l'impression, et cette discussion finalement en fait aussi partie, que la victoire de Donald Trump reste une sorte de mystère pour une bonne partie, pas tous, des Américains.
C'est vrai, et malgré le bilan que viennent de dresser vos invités, pour beaucoup de gens, c'est un mystère. Il y a un an, Donald Trump a été élu président et un monde s'est écroulé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit ce jour-là, c'est l'ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Araud, dans un tweet très matinal et assez peu diplomatique à la mesure de la stupeur et du désarroi qui ont frappé l'establishment de Washington à l'annonce de ce séisme planétaire. Cet establishment et au-delà de Washington, les élites des grandes villes de la côte Est et de la côte Ouest, de New York à Boston, de San Francisco à Seattle. Ces élites, donc, ne se sont toujours pas remises de la victoire de Trump. Cette Amérique-là n'a toujours pas compris ce qui lui est arrivé le 8 novembre 2016, ni pourquoi, au petit matin du 9 novembre, un monde, son monde, s'est écroulé. Et c'est vraiment dommage qu'elles ne le comprennent pas, car c'est une date que les livres d'histoire des États-Unis retiendront tout autant que celle de l'assassinat de Kennedy en 1963 ou celle de la démission de Richard Nixon en 1974. Et tant que ceux qui avaient voté pour Hillary Clinton n'auront pas compris pourquoi Trump a gagné, il n'y aura pas de réconciliation possible entre ces deux Amériques profondément divisées.
Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre, Sylvie, justement, pour tenter de surmonter cette fracture ?
D'abord, il faut arrêter d'essayer de tout expliquer par les défauts du système électoral américain, assez particulier, c'est vrai, par les erreurs d'Hillary Clinton ou par les interférences de la propagande russe. Ensuite, il faut regarder les sondages de près et ne pas lire que ce qu'on a envie d'y lire. C'est vrai, Donald Trump n'est pas le président le plus populaire puisque son taux d'opinion favorable ne dépasse pas 38%. Mais à part que ce taux est largement aussi bon que celui de notre président à nous, ce socle de 38% reste très solide. Il ne bouge pas. Et dans les régions qui ont majoritairement voté Trump, il y a un an, son taux de popularité est nettement plus élevé, 48%, même s'il a commencé à s'éroder un peu avec l'annonce de la réforme fiscale.
Alors qu'est-ce qui nous dit ce socle électoral, Sylvie, si solide que les élites démocrates ne veulent pas le voir.
Il nous dit que ces électeurs, qu'Hillary Clinton avait eu le malheur de surnommer les misérables, avec une arrogance dont elle s'était mordu les doigts, vous vous souvenez, Fabienne, ces fameux deplorables, eh bien, ils sont toujours là, derrière le président, dans l'Amérique rurale et dans celle des petites villes, cette Amérique profonde entre la côte Est et la côte Ouest. Il nous dit que leur colère contre les élites ne s'est pas éteinte, que leur sentiment d'avoir été les laissés pour compte de la mondialisation n'a pas disparu. Il nous dit qu'ils sont toujours convaincus qu'il y a deux sortes d'Américains, les « in » et les « out », ceux à qui le système profite et ceux qui en sont exclus et que eux font partie des « out ». Et tous ces gens-là, Donald Trump, ce même Trump que nous adorons détester à New York, à Paris, à Berlin, lui, il sait leur parler et il sait où les trouver. La vraie question en réalité, c'est à quel moment va arriver l'heure de vérité. Autrement dit, à quel moment les électeurs de Trump vont réaliser que leur président ne tient pas ses promesses. Et quand ce moment arrivera, alors c'est contre lui que la colère des fameux misérables se retournera.
Sylvie Kaufmann du journal Le Monde, merci beaucoup. Merci évidemment à tous d'avoir participé à cette première partie des 18-20 qui continue tout à l'heure avec le téléphone sonne. Et merci tout particulier à Colson Whitehead. Tiens, je rappelle que ça s'appelle Underground Railroad, de votre roman, qui n'a pas été traduit d'ailleurs pour le titre, et c'est publié chez Albin Michel. Et merci évidemment à Michel Zlotowski pour la traduction. Voilà, et allez, tout à l'heure.